Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie?
Je vous en prie.
Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire.
Au commencement était l'action.
Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on peut pas tout piloter. Vivez-le à fond.
Tu sais, c'est con, mais quand ma fille était entre la vie et la mort, moi, je disais, mais en fait, elle va mourir, c'est affreux. Et c'est ma sage-femme qui me disait, mais Amélie, il faut croire qu'elle va vivre, t'es obligée d'y croire, parce que si elle meurt, ce sera pas plus facile parce que t'y as pas cru. Donc en fait, elle va vivre, allez l'amour, quoi. Allez l'amour.
Je suis Sarah Crosetti et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages pour que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer. Aujourd'hui, je rencontre Amélie Chaléa, ex-directrice de la communication chez L'Oréal Paris et créatrice de la marque Allez l'amour. Amélie bascule il y a 3 ans alors qu'elle attend son 2e enfant. Sa grossesse ne se passe pas comme prévu puisqu'elle est hospitalisée à 22 semaines. Sa fille Sherazade, extrême prématurée, a une chance sur 2 de vivre et pendant des semaines, Amélie, son conjoint et le personnel soignant se relaient à ses côtés. C'est cette épreuve qui va donner naissance à sa marque, Allez l'amour, et révéler ses envies d'entrepreneuriat. Dans cet épisode, on parle des accidents de la vie qui vous changent, des dessous de la création d'une marque, des envies d'abandon et de ce qui nous inspire. Je vous souhaite une belle écoute et j'espère que cet épisode vous inspirera autant qu'Amélie devant son mantra « Allez l'amour ».
Eh bien, bonjour Amélie, bienvenue dans le podcast. Je suis ravie que tu puisses donner de la voix sur tous les sujets de l'entrepreneuriat, de la maternité, du changement de vie. J'ai hâte d'avoir ton témoignage. Peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ?
Oui, avec plaisir. Bah déjà, bonjour et merci de m'accueillir sur ton podcast. Je m'appelle Amélie, j'ai bientôt 40 ans. Je suis maman de 2 enfants, un grand garçon qui a 14 ans que j'ai eu d'une précédente union et ma petite fille Sherazade qui a 3 ans aujourd'hui, qui est née extrême préma. Et je le mentionne, le fait qu'elle soit née extrême prématurée, parce que c'est un sujet que j'aborde beaucoup sur les réseaux sociaux. Et c'est un peu sa naissance qui, en fait, m'a fait changer de vie et qui m'a fait prendre la voie de l'entrepreneuriat alors que j'ai fait 15 ans dans une grande entreprise cosmétique et que j'avais une vie plutôt en CDI. Enfin, je ne me posais pas tellement la question de l'entrepreneuriat avant ça.
Oui, parce que tu reviens sur ton parcours. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais comme étude ? Tu habites déjà à Paris ?
Non, je n'ai pas grandi à Paris. Je suis née à Toulouse et j'ai grandi à côté de Bordeaux, à Martignas-sur-Jalles. C'est, tu sais, vraiment ces petites communes, un peu avec des maisons des lotissements, quoi, à une demi-heure de Bordeaux. J'ai fait mes études à Bordeaux, une classe prépa, parce que je n'étais pas trop mauvaise à l'école. Mais c'est marrant, j'avais une spécialité plutôt scientifique, enfin économique scientifique, alors que mon vrai truc, c'était l'écriture. Enfin, mon vrai truc, c'était la littérature, tu vois. C'est un détail, mais j'ai eu 19 sur 20 au bac en philo. Je suis bien contente de le dire aujourd'hui. Ça n'intéresse personne, mais dès que je peux le sortir, je le sors. Bref, c'est pas pour me faire mousser, mais c'est vraiment ce que j'aimais faire. Malgré tout, j'ai pris une voie plus scientifique, parce que tu sais, à l'époque, tu avais vraiment ce truc de dire « Non, mais les maths, c'est la voie royale. » Fais une école de commerce, tu auras beaucoup plus de choix, toutes les portes s'ouvriront à toi, blablabla. Bla, bla. Bref, j'ai fait ma classe prépa. Et ensuite, j'ai fait une école de commerce à Reims, Sup de Corinth, à l'époque ça s'appelait, maintenant ça s'appelle Neoma. Et puis, je suis arrivée à Paris en tant qu'étudiante pour faire des stages. Tu vois, j'ai commencé en faisant des stages. Mes 2 premiers stages, c'était au musée du Louvre, figure-toi.
Ok.
Ouais. Et,
trop bien.
Ouais, au service mécénat. Et on cherchait des entreprises mécènes pour le musée du Louvre. Donc, par exemple, je pouvais faire des espèces de dossiers pour demander à des entreprises de financer des réhabilitations de portes mamelouks du 4e siècle avant Jésus-Christ. Enfin, c'était fou. C'était très intéressant. Enfin, intellectuellement, c'était fou, quoi. Puis, en fait, voilà, t'es au Louvre, t'as accès à toutes les œuvres. C'était incroyable. Et on a aussi lancé le cercle des jeunes mécènes à l'époque. C'était tout un cercle pour que des jeunes puissent devenir mécènes du Louvre avec une espèce de carte comme un club, une adhésion, où en gros l'adhésion donnait accès évidemment au musée, mais aussi à des événements privés, etc., et des conférences sur l'art, etc. Et donc après, j'ai fini mon école de commerce et je me rappelle, je faisais un mémoire sur le mécénat, assez logiquement, et j'ai décroché un entretien, une interview avec la directrice de la Fondation L'Oréal à l'époque. C'est trop marrant parce que je ne la connaissais pas. Enfin, j'avais aucun réseau, quoi. Et j'avais juste trouvé son adresse mail sur Google, quoi. Et je lui avais envoyé un mail, elle m'avait reçu. Donc, je l'avais interviewée. Puis, à la fin, elle me dit « Mais qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous ne cherchez pas un truc à faire ?» Par hasard. Donc, j'ai filé mon CV, qu'elle a filé au RH. J'ai passé un entretien. Ils étaient en mode « Bon, bah viens, fais ton dernier stage chez nous. Ça peut être sympa, soit à la fondation, soit carrément t'essayes une marque pour vraiment t'immerger dans un peu nos problématiques, la beauté, les enjeux, etc. » Et donc, j'ai fait un premier stage chez Garnier en DMI à l'époque. C'est les directions de marque internationales. C'est là où on crée les marques d'un point de vue stratégique. On anime toute l'image de marque, on fait tous les développements produits à l'international, toute la stratégie de communication à l'international. Et il y avait un enjeu à l'époque sur Garnier qui était précurseur sur tout ce qui était un peu responsable, tu vois. Je me rappelle, j'ai travaillé sur comment est-ce qu'on essaye d'inclure des matériaux recyclés dans les packs, qui étaient en PET, donc comment on mettait du PET recyclé, du PP. Enfin bon, je ne vais pas commencer à rentrer dans les détails, mais il y avait des problématiques comme ça, et aussi en communication, comment on faisait de l'éducation sur économiser l'eau, enfin plein de choses comme ça. Donc comme quoi, c'était assez visionnaire à l'époque. Et puis, je suis tombée enceinte pendant mon stage de Léonard. Et donc, j'ai eu Léonard et après, ils m'ont embauchée.
Mais t'es tombée enceinte jeune, alors, du coup ?
Ouais, j'avais, quand je suis tombée enceinte, 24 ans.
Ouais, c'est ça ?
Ouais, j'avais 24 ans, tu te rends compte ? Alors, c'est marrant parce qu'en parallèle, j'avais commencé à faire des cours de théâtre en cours du soir. J'avais fait le cours Florent et le cours Cochet, je me rappelle. Et puis, le fait que je tombe enceinte m'a... Enfin, tu vois... J'ai lâché tout ce rêve-là. C'était plus un rêve qu'un vrai projet. Et je me suis mise à fond chez L'Oréal, qui ensuite m'a embauchée. Et ensuite, j'ai monté un peu les trucs où je suis partie ensuite chez L'Oréal Paris, qui est la grosse, grosse marque de L'Oréal, où j'ai commencé en écrivant des petits dossiers de presse sur des crèmes anti-rides, quoi. Et j'ai fini directrice événements et de l'influence de la marque, où on s'occupait de toute la production de contenu pendant les festivals de Cannes, les Fashion Week, les événements influenceurs, les premiers événements influenceurs dans les labos, tu vois. Moi, je faisais arriver des influenceurs dans les labos de L'Oréal, tu vois. Les gens de L'Oréal me regardaient en mode genre, on est sûr là, on ne peut pas leur confisquer leur téléphone. Je disais, non, il n'y a aucun intérêt. Si vous enlevez son téléphone, en fait, tout va très bien se passer. On va montrer ce qu'on fait et tout va très bien se passer. Et il y avait un vrai enjeu à raconter tout ça et c'était fascinant et très important aussi d'amener cette transparence et de montrer en fait que L'Oréal était aussi à la pointe du développement, que tu vois, la R&D, c'était quelque chose, la recherche et développement, c'est quelque chose de très important. L'Oréal, c'était un truc qui était, enfin, un truc, le leader des cosmétiques mondiales, mais qui a été créé par Eugène Schueller, qui était un chimiste. Donc, la recherche et développement a toujours été très important et qu'ils ont développé plein de trucs pour cesser les tests sur animaux depuis très longtemps. Tu vois, tu avais Episkin, tout un programme de reconstruire, etc. Et donc, c'était hyper intéressant de travailler sur tout ça. Et j'ai fini mon dernier job chez L'Oréal. J'étais DIRCOM international de Kérastase, qui est une marque de haircare premium. En gros, l'idée, c'était de un peu rajeunir la marque, la rendre vivante et plus moderne. Donc,
et t'aimais ton job, du coup, à l'époque ?
Ouais, c'était grisant. C'était vraiment grisant. En fait, je pense que le milieu de la beauté m'a toujours hyper attirée. Mais je voyais aussi un lien peut-être avec le musée du Louvre et ce que je fais aujourd'hui, mais la quête du beau et la quête du sens dans le beau, tu vois. Je ne sais pas si mon approche est un peu trop philo, mais j'aimais bien l'idée de travailler sur des produits et des marques qui pouvaient transmettre des valeurs, le côté prendre soin de soi. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment un marché où à la fois on peut donner des valeurs d'empowerment, mais aussi des injonctions à une normalisation de la beauté, tu vois, une norme de beauté. Et c'est intéressant de travailler là-dessus. Et comment, avec une même marque, soit tu peux donner à chacune le pouvoir de s'exprimer, de qui elle est, est-ce qu'elle met du maquillage, pas du maquillage, prendre soin de soi, prendre soin de son corps, voilà quoi, s'affirmer. Ou à contrario, attention, est-ce que là, je ne montre pas que des nanas avec ce type de physique ou que des nanas avec ce type de poids? Et est-ce que je ne suis pas en train de construire une image de la beauté qui va faire souffrir d'autres femmes parce qu'elles sont trop loin? Donc, comment est-ce que je fais en sorte de représenter aussi quelque chose qui soit bon pour toutes, enfin, identifiable pour toutes, etc. Enfin, bon, bref, c'est des sujets qui me passionnaient d'un point de vue vraiment intellectuel, et puis, enfin, d'un point de vue valeur et d'un point de vue... intellectuel, c'est grisant, quoi. On est dans des marques qui sont très puissantes, on a des leviers d'action énormes, il y a des budgets des équipes, et puis les gens sont quand même un bon niveau. Tu vois, quand tu bosses là-bas, en général, les équipes sont extrêmement à leur affaire et c'est des gens qui savent de quoi ils parlent et qui sont vraiment committed, quoi. Donc, moi, je trouvais ça assez grisant. Et puis,
donc, tu aurais pu ne jamais partir, en fait.
Je ne sais pas si je serais jamais partie, parce que j'avais quand même dans le coin de ma tête ce désir d'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui me faisait envie depuis longtemps, mais je ne pense pas que j'aurais osé sauter le pas de lâcher le côté CDI, confort. Le reste, ce n'est pas que confort, parce que c'est exigeant aussi, L'Oréal. Mais c'est des très belles projections de carrière. Tu vois, moi, j'étais dire comme à 30 ans. Enfin, c'est une belle projection quand même. Ils font confiance aux gens qui s'identifient comme talentueux, etc. Donc, c'était grisant. Oui, j'aurais pu rester. Oui, j'aurais pu rester parce que tu as plein de marques incroyables, tu as plein d'opportunités. Du coup, la décision de ne pas rester, ça n'a pas été lié à ça. Ça a plus été lié à ce que la vie... Enfin, c'est la vie qui s'est mise en ordre de marche pour que je parte et que je fasse autre chose. Je ne suis pas partie parce que je n'aimais plus, j'en pouvais plus, ou je ne sais pas quoi. J'étais très épanouie dans ce que je faisais. Mais ça a été une autre opportunité, enfin un autre chemin qui s'est ouvert devant moi qui m'a fait partir, je dirais.
Oui, parce que là, du coup, tu tombes enceinte. T'as quel âge quand tu tombes enceinte la deuxième fois?
30... je vais avoir 40 ans. J'ai 33 ans, je suis nulle sur les âges. Tu sais, mais c'est un délire. Je ne peux pas te dire quel âge a mon père, mon mec, mes enfants, c'est limite. Je vais avoir 36 ans. 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est ça. J'ai 39 ans là et j'aurai 40 ans cet été. Donc, j'avais 36 ans quand je suis tombée enceinte de Sherazade.
Ok. Et pour ceux qui ne savent pas, tu disais en intro que c'était une grande préma. Qu'est-ce que c'est un... Enfin, moi, avant de te lire, je ne savais pas non plus ce que c'était. Concrètement, qu'est-ce que c'est un enfant qui naît grand prématuré?
Alors, une grossesse, ça dure 41 semaines et les bébés sont viables à partir de 24 semaines. Ça veut dire qu'ils commencent à réanimer des bébés quand ils naissent à 24 semaines. 24 semaines, c'est genre la moitié de la grossesse, enfin, c'est très tôt. Moi, j'ai été hospitalisée à 22 semaines de grossesse en faisant une hémorragie, etc. Donc là, clairement, ils m'ont gardée en grossesse pato et donc la grossesse n'était pas viable, le bébé n'était pas viable. Donc, le premier combat, c'était de rester allongée et gagner chaque heure, chaque jour avec Sherazade dans mon ventre pour passer la barre des 24 semaines où, en France, ils commencent à réanimer des bébés. Ensuite, entre 24 semaines et 41 semaines, tu as plusieurs étapes. Tu as entre 24 et 28 semaines, c'est de l'extrême prématurité. Donc, le pronostic vital est très fortement engagé. C'est nul de donner des chiffres, etc. Et chaque parcours est différent. Tu as des bébés de 25 semaines qui survivent et de 32 semaines qui ne survivent pas. Donc, il ne faut vraiment pas se fier à des chiffres. Chaque parcours est différent, vraiment. Mais en gros, ma fille avait une chance sur deux de survivre. Et une fois qu'elle survivait, elle a une chance sur deux d'avoir un handicap lourd, moteur ou mental.
Oh, ah ouais, la pression.
C'est ça, l'enjeu.
Et ça, les médecins te le disent?
Ils ne te le disent pas aussi clairement que ça, je pense. Ils ont raison au début. Mais tu le comprends. En fait, ils t'amènent à le comprendre. Sinon, c'est trop. Quand tu commences le combat, tu ne connais rien. Tu te retrouves face à ça. Tu fais genre, finalement, je vais... pas y arriver, par exemple, parce que c'est trop dur. Donc, non, tu comprends au fur et à mesure les choses. Puis après, si tu googles, tu trouves, mais il ne faut pas googler. Écouter les médecins, plutôt. Sinon, pareil, ça fait trop peur. Donc, pour en revenir à là, tu as 24-28 semaines. Ensuite, entre 28 et 32 semaines, c'est de la grande prématurité. Ensuite, entre 32 et je ne sais plus combien, c'est de la prématurité.
D'accord.
Et jusqu'à un mois avant, c'est OK. A priori, on considère que le bébé est viable. Ce qu'il faut savoir avec la prématurité, c'est que c'est les montagnes russes, que c'est un très long combat. Les montagnes russes, ça veut dire que nous, tu vois, par exemple, on a fait 4 mois d'hôpital en tout et on a fait un mois et demi de réanimation quand même. Donc, quand tu as ton bébé en réanimation, c'est-à-dire que son pronostic vital est engagé dans les 3 prochaines heures.
Donc pendant un mois et demi, tu vas voir ton enfant et tu ne sais pas s'il va survivre à sa journée, voire à sa demi-journée. Donc c'est psychologiquement, enfin c'est un très grand stress. Je pense que c'est comparable à des situations de guerre. Enfin, le stress que tu ressens dans ces moments-là, en plus tu restes beaucoup avec ton bébé, c'est terrible.
Et du coup, tu peux pas le toucher. Enfin.
Alors quand tu arrives en néonat, ton bébé est dans une couveuse, intubé souvent, surtout s'il est extrême prématuré, parce qu'en fait aucun de ses organes n'est prêt à vivre, à fonctionner normalement. Donc, il est intubé pour arriver à respirer. On lui envoie de l'oxygène dans les poumons. Il a une perf pour qu'on l'hydrate. On essaye de le faire manger, entre guillemets, avec une sonde qui va jusqu'à son estomac. Il peut digérer que du lait maternel. Donc, il faut réussir à tirer ton lait. Sauf que tu n'as pas ton bébé avec toi tout le temps. Très compliqué. Il y a un enjeu sur il faut qu'il prenne du poids, il faut pas qu'il y ait des épanchements cérébraux, il faut que la valve dans le cœur, parce que quand les bébés ne naissent pas à terme, il y a une valve qui n'est pas refermée, il faut absolument qu'elle se referme pour que la circulation sanguine et l'oxygénation du sang se passe bien. Les intestins ne marchent pas, rien ne marche. Donc, il y a plein de machines, les médecins, les parents, on est là et on fait en sorte que ça se développe. Une couveuse essaye de reproduire au maximum tout ce qu'apporte le ventre d'une maman à un bébé. Donc, au tout début, tu es un peu en mode genre, je ne pourrais pas le toucher, donc c'est compliqué. Ouais. Sauf qu'il y a des soins très réguliers. On change les couches toutes les 3 heures, un bébé préma. Et au-delà de changer les couches, donc il faut le nettoyer, changer la couche, c'est des couches. Moi, la couche de ma fille, la première couche de ma fille, elle faisait 5 cm. En fait, ma fille, elle tenait là-dedans. Là, ma fille, elle tenait, tu vois. Genre, sa tête était là, ses pieds étaient là. Enfin, c'est indécent.
Incroyable,
C'est tout petit. Et un petit doudou, je me rappelle, on mettait à côté d'elle. Hein. La tête du doudou était plus grosse que la tête de ma fille. Enfin, c'était... D'ailleurs, on a toujours gardé le doudou. Donc, tu es face à quelque chose d'extrême, enfin, surréaliste. Et Dieu merci, les soignants t'invitent. Et les médecins t'expliquent que c'est très important que tu fasses les soins avec eux. Donc, quand je dis les soins, ça peut être effectivement changer la couche, nettoyer le bébé. Il faut aussi déplacer, il faut tourner le bébé, tu vois. Un coup, elle était allongée à droite, un coup allongée à gauche pour pas que sa tête se déforme. Et pour pas que ça crée des, je sais pas comment, des tu sais quand t'es ankylosé,
prima, il n'a
pas
la force, des escarres,
pas la force de bouger, il n'a pas la force de pleurer. Un bébé prima, ça ne pleure pas, même s'il a très très mal. Ouais.
Ah, c'est incroyable.
Donc tu vois, c'est incroyable. Donc un, ils te font participer à ces soins toutes les 3 heures, donc c'est important que tu sois là. Et deux, assez rapidement, nous c'était au bout de 3 jours, mais de plus en plus, c'est l'association SOS Prima que je soutiens avec ma marque Solidaire et l'amour. Œuvre beaucoup pour ça, pour militer pour la présence des parents auprès de leur enfant. Il y a encore quelques années, les parents n'étaient pas trop bienvenus en néonatologie. Il y avait un côté, les bébés sont entre la vie et la mort. Ce qu'on voit, c'est très impressionnant. Les bébés sont très fragiles. Dès qu'il y a un microbe, le bébé peut mourir. Enfin, tu sais, quand tu rentres en néonat, tu désinfectes les mains, les bras, tu mets des blouses, des machins, des trucs. Tu es dans Doctor House, quoi. Tu n'as pas le droit d'utiliser ton téléphone. Enfin, tu vois, c'est très... Faut faire très attention aux microbes. Malgré tout, beaucoup d'études ont démontré que notamment le fait de prendre son bébé en peau à peau, donc tu sais, prendre son bébé en peau à peau, c'est-à-dire que tu mets torse nu ou voilà, on se tient gorge et tu mets ton bébé contre toi. Donc, Chérazette, pour te montrer, elle tenait là. Voilà, je la mettais là. Elle tenait là-dessus.
Incroyable.
Et avec son masque pour respirer, les fils, les machins, le capteur au pied, tout relié au scope avec les courbes de vie, le cœur, la respiration. Enfin, c'est ça qui te dit si ton bébé respire ou pas, parce qu'à vue que si t'es pas médecin, c'est compliqué de le voir. Et donc, on l'a gardé comme ça des heures contre nous. On se faisait des sessions de 4-5 heures par jour. Et en fait, le fait de la prendre en peau à peau, c'est démontré que ça aide les bébés à se développer. Bon, déjà, évidemment, ça aide à construire le lien parent-enfant, qui est très, très important. Et puis, elle entend un rythme cardiaque, elle se cale sur la respiration. Et moi, je me rappelle avoir passé des heures à lui parler. Je dis, tu respires, tu vois, c'est facile, on va y arriver, on est ensemble, t'es pas toute seule. Et, ou à lire des histoires, ou à chanter des chansons, tu vois, un peu en détente, machin, pour que vraiment elle sente qu'elle n'est pas seule dans l'épreuve.
Et tu penses que du coup, ça a quand même joué tout ça ?
Sur sa survie ?
Ouais.
Ouais. Oui, mais même les médecins au début, parce que nous au début on était vraiment, je me rappelle même Hamza était hyper impressionnée, elle était mais je peux pas la prendre en peau à peau, là elle est trop faible, elle a fait trop de dessats, enfin c'est trop dangereux, elle est trop petite. Et puis parfois quand tu la prends, bah, vu que ça la déstabilise un peu, elle fait une désaturation, c'est baisse niveau d'oxygène qui peut entraîner une bradycardie, c'est-à-dire que le cœur ralenti il peut s'arrêter, si le cœur s'arrête il la réanime, nous on a vu plusieurs fois notre bébé partir, tu vois. Et les médecins arrivaient, la réanimée, Dieu merci, elle est toujours revenue, mais c'était très impressionnant. Mais les médecins, vraiment, nous disaient, en fait, deux bébés avec le même terme et les mêmes conditions médicales, c'est le bébé qui aura une présence aimante à ses côtés qui va survivre. Il y a des bébés qui se laissent partir. S'ils n'ont pas de visite, quoi. C'est pour ça qu'il y a aussi quelque chose de très beau qui est mis en place dans les hôpitaux, au-delà de la présence des puéricultrices qui sont des héroïnes absolues de notre société, qui ne sont pas du tout assez reconnues, parce qu'elles ne font pas que changer des couches, elles sauvent des vies au quotidien. Moi, j'ai vu des femmes réanimer mon enfant sous mes yeux tous les jours quasiment. Enfin, incroyable, quoi. Au-delà de ça, et elles sont très importantes parce qu'en fait, elles parlent. Il faut parler à un bébé préma, même s'il entend, on ne sait pas ce qu'il entend. Il ne peut pas parler, il ne peut pas pleurer. On a beaucoup de mal à saisir, mais il faut raconter sa famille. Voilà, tu as un grand frère, tu as un chat, tu as un papa, maman. Enfin, raconter, raccrocher à la vie, quoi. Absolument. Et dans certains hôpitaux, tu as aussi des câlineuses. Quand les parents ne peuvent pas venir, ouais. C'est incroyable ça. C'est des assos souvent. Et donc, c'est beaucoup de femmes. Il y a quelques hommes aussi, des grands-pères, qui viennent et qui viennent faire des câlins aux bébés hospitalisés. Parce que c'est ça, c'est les hormones que tu sécrètes. Tu sais, c'est l'amour, quoi. Et c'est ça qui les aide beaucoup médicalement également.
Ouais, c'est incroyable. Et du coup, on rassure les auditeurs, mais donc ta fille a survécu.
Oui, elle va très bien aujourd'hui. Elle a 3 ans. Et elle vient de rentrer à l'école, ce qui est une très grande victoire. Parce que quand on a un bébé préma, la première victoire, évidemment, c'est de sortir de l'hôpital avec son bébé en vie. Mais ensuite, les bébés sont suivis pendant très longtemps. Moi, ma fille, elle sera suivie jusqu'à ses 7 ans. Et jusqu'à maintenant, elle ne pouvait pas aller en collectivité. Parce que tu vois, elle a des fragilités pulmonaires, dysplasie pulmonaire. Donc, si elle chope un virus, une bronchiolite, vu qu'elle était encore petite, elle aurait pu retourner en réa directement. Donc, il y a ça aussi. Il y a l'enjeu d'arriver à sortir de l'hôpital dans sa tête, arriver à réavoir une vie sociale un peu normale et à arriver à accepter de mettre son enfant dans le monde vraiment. Enfin, tu vois, ouais. C'est un process un peu plus long que quand tu as un bébé né à terme.
Et donc, ça te fait aussi cogiter sur toi, le sens que tu veux donner à ta vie.
Bien sûr.
Et parce que, évidemment, tu ne vas pas retourner chez L'Oréal.
Non, ce qui s'est passé, c'est que déjà... je me suis arrêtée pendant longtemps parce que quand on a un bébé préma, il y a d'abord arrêt maladie, après congé mat, et puis après j'ai pris un congé de présence parentale parce qu'en fait ma fille, il fallait que je l'allaite, il y avait un vrai enjeu, tu vois, j'allais pas. Enfin bon, pour moi je me suis mis un vrai enjeu à allaiter pendant longtemps. Je m'occupais beaucoup d'elle, on avait quand même 4 à 5 rendez-vous par semaine médicaux au début.
Ouais.
Tu peux pas reprendre le boulot comme ça. Elle avait besoin de soins, elle pouvait pas aller en collectivité. Enfin.
Et donc, oui, c'est ça qui te crée un peu ta bascule. Et donc, toi, tu... Donc, 2 ans sans travailler. Et c'est là que naît un peu l'idée de ta marque.
Oui. Alors, en fait, est-ce que l'idée de ma marque est née de là? En fait, comment ça s'est passé? De facto, je me suis arrêtée de travailler pendant un moment. Ma communauté a grossi aussi, parce que j'ai beaucoup raconté ce qui nous arrivait à l'hôpital. Il se trouve que quand on était à l'hôpital, notamment que Sherzad était en réanimation, c'était compliqué pour moi, psychologiquement. Enfin, j'ai trouvé que c'était une immense épreuve. Et j'avais beaucoup de mal à faire face à la mort potentielle de ma fille. Et si tu veux, je me suis mise à communiquer aussi sur les réseaux sociaux pour écrire qu'elle était en vie. Alors, je ne faisais pas tous les jours, je ne faisais pas des lives tous les jours, machin, ça aurait été bizarre. Mais un peu comme un carnet de bord, le fait d'écrire publiquement qu'elle était en vie, ça voulait dire qu'elle était en vie. Je me disais, même si elle meurt, elle aura vécu. Enfin, tu sais, c'est une espèce de projection. Un peu par la narration, j'essayais de maîtriser la situation. Et je suis revenue à un réflexe d'écriture un peu en me servant des réseaux sociaux. Donc, comme ça, la communauté a augmenté. Au-delà de ça, il se trouve que quand on était à l'hôpital, c'était tellement dur que, tu vois, quand on était hébergé à la maison des parents, parce qu'en plus, on a été hospitalisé à Lyon, pas à Paris, parce qu'on était partis en week-end voir ma famille. Enfin, bon, bref. Donc, on était logés dans une espèce de petite maison où logent tous les parents d'enfants malades. Tu vois, où tu payes une chambre comme une chambre d'hôtel et en fait, tu as le droit de rester là pour être proche de ton bébé qui est à l'hôpital. Donc, tu n'as que le parking de l'hôpital à traverser.
OK.
Et c'était tellement dur que moi, quand je traversais le parking de l'hôpital, je me suis mise à développer des tocs, mais vraiment. Et donc, par exemple, je me disais, aujourd'hui, il ne faut pas que je lise le panneau service funéraire. Ça va me porter malheur. Enfin, ça va lui porter malheur. Il me restait dans des poches des stickers qu'on avait fait pour notre PAX avec Hamza, où j'avais dessiné une espèce de... ce qui, aujourd'hui, est le logo de ma marque qui s'appelle « Allez l'amour ». Parce que allez, l'amour, c'était un espèce de mantra que je disais à l'époque, mais un peu en rigolant, hein, tu vois, de mon époque de mère célibataire, en mode je fais des dates Tinder foireux. Hein, et avec mes copines, on débrief. C'était alors, c'est bon, je suis là-bas, non, toujours pas. Mais bon, allez, l'amour, on boit un shot. Peut-être qu'un jour, ça arrivera, on ne sait pas. C'est plus une blague. Du coup, en rigolant, quand on ne sait pas que c'est avec Hamza, on s'est dit trop drôle, on fait des stickers et des pins. Allez, l'amour. Hein. Pour les distribuer à nos copains, ce qu'on a fait, mais c'était pas du tout censé être ni un logo de marque, et ni on s'est pas dit on va vendre des stickers, enfin pas du tout. Et puis à l'hôpital, on s'est retrouvés avec les stickers dans les poches, et moi je me suis mise à en coller un peu partout dans l'hôpital pour que mes yeux, enfin pour lire le message jusqu'à ma fille. Et pas mal de mes textes aussi étaient signés par Allez l'amour, enfin je trouvais là-dedans une force pour avancer dans l'épreuve. Si bien que le message a résonné auprès de la communauté, qu'il y a de plus en plus de gens qui m'ont dit « Moi aussi, je veux porter le message, je me reconnais dans ton message. Moi, parce que j'ai vécu la prématurité, ou moi, parce que je n'ai pas vécu la prématurité, mais ça me lie à une autre histoire, etc. » Donc, fais des trucs. Donc, je suis là, attendez deux secondes, je vais réfléchir parce que je ne vais pas vendre que des stickers. Ce serait bizarre, ce serait pas sympa. Et donc, j'ai commencé à faire une collab avec une petite marque. On a fait des suites avec le Allez l'amour brodé qui a hyper bien marché. Après, une autre petite marque, on a fait des paniers, ça a très bien marché aussi. Et donc, bon an, mal an, je me suis dit, voilà, ça fait longtemps que tu as cette envie d'entrepreneuriat au fond de toi. Tu n'avais pas forcément trouvé le sujet ou le moment. Et quand il a été question de revenir ou pas chez L'Oréal, même s'ils m'ont posé des super jobs, etc., j'étais assez honnête avec eux. J'aurais dit peut-être que c'est le moment pour moi de tenter une aventure entrepreneuriale. Et le fait est que je ne pouvais pas reprendre exactement le même modèle de vie avant et après l'hôpital. Parce que c'était trop différent. Mais tu vois, même Hamza a changé de boîte. Hein. Il a quitté, il était directeur d'une galerie, il l'a quitté. Et là, maintenant, il monte sa propre galerie, tu vois. Donc, mais ça a été un vrai révélateur pour nous deux, finalement, tu vois. D'avoir ensuite envie de construire ton quotidien, ton planning, tes enjeux. Et puis moi, j'avais vraiment envie de développer ce message à l'amour, quoi, finalement.
Et du coup, ça part donc de... quelques collabs au début,
ouais.
Et après, petit à petit, tu te dis, bah, ça va être du vêtement.
Oui, alors les collabs, au début, il y a eu du vêtement et on a fait des paniers, donc accessoires. Et puis, j'ai lancé il y a pile un an. Donc, j'ai lancé le 6 novembre 2022, tu vois, le temps de partir de chez L'Oréal, etc. Et au début, c'était des vêtements, mais assez vite, on a fait des accessoires aussi, assez vite, on a fait des bijoux. En fait, la vision derrière Allez l'amour, on a commencé par du vêtement, c'était pas mal la demande qu'on nous faisait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des objets, que ce soit vêtements, bijoux, mugs, enfin, des choses qui apportent de l'amour concrètement. C'est-à-dire, si je prends un vêtement, il va être confortable, il va être doux, il va être en matière recyclée. Et puis, il va y avoir un message d'amour dessus. Ça va être soit un cœur, soit un message d'amour. Donc, le fait de le porter, ça diffuse de l'amour. Tu vois, un mec, ça apporte du réconfort parce que tu vois un truc réconfortant. Et ma mission de marque, c'est de diffuser de l'amour, que ce soit à travers vêtements, accessoires, objets. Demain, ça peut être une expérience. Après-demain, ça peut être un podcast. Enfin, je dis n'importe quoi, mais je suis pas une marque de mode. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Je réunis plus autour d'une vision de la vie, de la volonté de diffuser de l'amour et de l'engagement à être transparent et responsable et solidaire, puisqu'on reverse 10% des bénéfices à SOS Préma aujourd'hui, qui est l'asso qui aide les parents face à la prématurité.
Et c'est toi, du coup, qui pense ou qui dessine les objets, les vêtements?
Ouais, alors, ça dépend. Donc là, moi, j'ai lancé la marque il y a un an. Et cette marque, soit j'ai fait des designs moi-même en tant qu'Allez l'amour que j'ai fait produire. Donc, soit j'ai une idée, une vision et je vais travailler, par exemple, avec une graphiste qui va la dessiner ou une illustratrice ou quoi pour vraiment donner vie à l'écriture. Le logo, c'est moi qui l'ai dessiné, mais un univers, des couleurs, des dessins, etc. Pour traduire un peu une vision. Soit je fais des collabs et soit on co-invente les produits. Mais en général, c'est plus moi qui ai en tête une vision, une DA, des envies. Je me dis, tiens, j'aime bien ci, j'aime bien ça, la couleur comme ci, comme ça. Enfin, c'est plus ma patte, ouais.
OK. Et sur le côté vraiment entrepreneurial, donc, quand tu... Vraiment, les first steps, quand tu dis « Ouais, je décide de un peu lancer ma marque
»,
ça veut dire que tu es toute seule. Tu te lances dans le projet seule.
Ouais.
Et par où tu commences, du coup?
Voilà, vraiment, oh là là. Bah déjà, il faut déposer sa marque, c'est très important.
Oui, donc tu déposes, la marque
à l'INPI. Après, tu as tout un process hyper légal et administratif de création de boîte. Mais donc là, mon conseil, je ne pourrais même pas donner des conseils très concrets. C'est il faut prendre un bon comptable et un bon avocat, ouais, quoi, pour faire les choses correctement. Pour un comptable, c'est important. Ouvrir un compte en banque, tu sais, tu as toutes les plateformes Time, etc., qui sont quand même hyper faciles. Ensuite, trouver tes fournisseurs pour faire ton produit, ça me semble évident. Donc, comment tu vas le produire, avec qui, où.
Et ça, ça prend combien de temps, par exemple? Parce que c'est quand même important.
Mais
hein,
c'est très long. Enfin, ça peut être très long. Ça peut te prendre 4 ans avant de lancer ta marque. Ça dépend quel produit tu veux faire. Si tu vas faire un sac en cuir sur mesure avec du cuir qui vient de je sais pas. Enfin, ou avec des matériaux recyclés encore introuvables et tu utilises beaucoup de R&D, tu peux mettre des années. Après, moi, j'ai lancé quand même relativement vite, puisque je suis partie de L'Oréal au mois d'août et j'ai lancé en novembre. Donc, tu vois, c'est rapide. Et encore aujourd'hui, j'ai plusieurs fournisseurs différents. Tu vois, donc moi, je suis partie sur des fournisseurs qui ont des produits déjà préexistants, où tu choisis parmi des produits certains modèles, où tu allais poser certains designs. Je ne suis pas partie sur un développement très long, parce que l'idée, c'était aussi de pouvoir sentir, voir est-ce que ça prend ou ça ne prend pas. Et moi, mon idée, c'est aussi de co-développer avec ma communauté. Tu vois, je fais beaucoup de sondages pour comprendre ce dont les gens ont envie. Et du coup, ça me permet de créer des modèles qu'on met en précommande et qu'on ressort si ça marche, etc. Donc, c'est beaucoup de petites
connexions comme ça. Oui, parce que le nerf de la guerre, quand même, dans ce genre de business, c'est quand même le stock, la production et tout ça.
C'est terrible, surtout en ce moment. C'est très dur en ce moment. Le marché de la mode se casse complètement la gueule. Toutes les marques ferment. Enfin, c'est très, très, très compliqué. Donc, à la fois, c'est très dur de se lancer dans un moment comme ça quand on fait aussi des vêtements. Mais c'est aussi pour ça que je ne veux pas faire que des vêtements. Et à la fois, c'est un avantage d'être tout petit parce que l'enjeu reste moindre. Ouais. J'ai très peu de frais fixes vu que je suis seule et que je ne me paye pas encore, tu vois.
Parce que là, tu as le chômage.
Ouais, j'ai l'instant. Le chômage. J'ai la chance d'avoir le chômage. Et ça, Dieu merci, on est en France. Et quand on a le droit d'avoir le chômage pour monter sa boîte derrière, c'est précieux. Sinon, je n'aurais pas pu le faire. Enfin, avec deux enfants en charge à Paris, je ne vois pas trop comment j'aurais fait. Donc oui, j'ai encore le chômage. Maintenant, la chance, enfin, tu vois, quand tu me dis qu'est-ce qu'il faut pour monter sa marque, bon, voilà, moi, je suis une DNVB, en fait. Je suis vraiment la Digital Native Vertical Brand, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est une marque qui est née sur Instagram à partir d'une histoire qui est devenue une marque. Donc, j'ai pas... Il n'y a pas 15 personnes derrière, des investisseurs, une grosse machine et donc aussi beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression et des gens qui veulent te faire produire des stocks, etc. Je suis vraiment toute seule. Enfin, c'est-à-dire, c'est moi qui gère mon Shopify, mon e-shop. Tu vois, je travaille avec mes potes photographes pour faire le contenu. Je fais mes stories sur Instagram. J'ai quand même un logisticien qui m'aide à envoyer parce qu'au début, on envoyait tout nous-mêmes avec Hamza, mais au bout des 2000... après 2000 colis envoyés, si peut-être on va se faire aider par quelqu'un. Ça prend beaucoup de temps quand même de faire les petits lutins. Mais c'était super justement aussi de commencer comme ça. C'est-à-dire, ça me tenait à cœur plutôt que de me dire « Ok, j'ai 2 ans de chômage, je prends 1 an pour faire mon business plan parfait, mes fournisseurs parfaits et je ne bougerai pas et voilà mon produit totalement abouti. » J'ai préféré y aller et apprendre en faisant, tu vois, ce qui fait qu'aujourd'hui, au bout d'un an, bah, c'est vrai qu'au bout d'un an, j'ai quand même un chiffre d'affaires qui est de plus de 200 000 euros, donc c'est quand même pas mal pour une première année de marque. Je suis presque rentable, ce qui est très, très rare sur une marque, surtout qui fait des fringues, d'être quasiment rentable aussi vite. Et j'ai beaucoup appris. Alors, tout n'a pas marché. Il y a des trucs qui ont cartonné et des trucs qui ont moins marché. Mais l'avantage, vu que ça reste très agile et très petit, bah, tu vois vite où est-ce que ça marche, ça ne marche pas. Et ça te permet de réorienter ton business. Parce que moi, si j'avais fait mon business plan il y a 1 an, j'aurais fait un business plan très, voire que vêtements, tu vois.
Ouais.
Et aujourd'hui, je ne pense pas que c'est ça qui va driver ma croissance dans les années à venir. Pas que, en tout cas. Ouais. Et il faut le faire de la bonne manière, en réfléchissant au prix, à comment faire du responsable à bon prix. Mais tu vois, j'ai essayé différents prix. J'ai fait du responsable, mais fait en Asie. Donc, est-ce que c'est bien de faire du responsable en Asie ou pas? Là, ma dernière collection avec Parisienne alors, bah, c'est fait en France. Et pareil en matière recyclée. Mais du coup, c'est plus cher. Donc, est-ce que ça... Donc, c'est ce que les gens veulent a priori, mais est-ce que ça vend vraiment ou pas? Enfin,
tu
au moins,
tu
as plein de data. Et maintenant, j'arrive à un moment, au bout d'un an, où je me dis, OK, c'est le moment où je prends un petit recul. Et maintenant, on assoit les visions et on déroule. On fait vraiment le business plan et on déroule sur le long terme.
Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as vécu une grosse galère, Ou t'as eu envie d'abandonner ou t'en as eu marre?
Ouais, tous les 3 jours. Bien sûr, avant-hier. Et avant-hier aussi. Pff, mais il n'y a que ça. Ouais. Mais il n'y a que ça, mais c'est... Ah là là, les montagnes russes de l'entrepreneuriat, mon Dieu. Surtout quand on est seul, hein, t'es là et tu fais merde, cette décision-là, quand j'ai pris ces quantités, pourquoi? Bon, bah, ça fait partie du jeu et c'est comme ça qu'on apprend aussi. C'est comme ça qu'on apprend. C'est un vrai exercice et c'est intéressant parce que ça désatellise. Je pense que 15 ans dans une grosse boîte avec des budgets, machin, ça te satellise un peu quelque part. C'est très intéressant intellectuellement, c'est génial parce que tu as quand même c'est une réalité business. Enfin, fatalement, tu es dans un grand groupe, donc tu dois être performant. Mais là, ouais, quand tu es tout seul, tu vois que tu n'as plus d'équipe, plus de budget. Je suis assez contente. Je ne sais pas ce que donnera sur le long terme Allez l'amour. Pour l'instant, d'un point de vue business, c'est prometteur, mais on est sur un marché très, très tendu en ce moment. Donc, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Enfin, il va falloir qu'on soit malin dans le pivotage de notre business plan. Je dis nous, parce que je comme si j'étais plusieurs, ça me rassure. La fille parle d'elle pas à la troisième personne, mais à la première personne du pluriel. Nous sommes très nombreux dans ma tête. Donc, il va falloir être malin pour la suite. Mais quand bien même, c'est très intéressant de revenir à ça. Très dur. Très, très dur. Humainement, ça demande un stretch énorme, hein. Mais c'est très apprenant.
Et qu'est-ce qui te tient ou à quoi tu te raccroches les jours où vraiment...
Les jours où je vends rien, où je me dis, putain, toute la prod là que j'ai lancée, je fais pas de vente, je fais comment? Est-ce que je fais une réduction ou pas? Mais si je fais une réduction, après les gens vont dire, c'est pas juste. Franchement, ce qui me fait croire fondamentalement au potentiel de cette marque, qui me fait tenir même quand c'est la fin du mois et que fatalement on vend moins, quoi. C'est les messages clients que je reçois, qui sont pas que ah le hoodie hyper doux, ah la doudoune elle est très chaude, ou ah ma médaille elle est hyper jolie. C'est voilà, aujourd'hui j'ai acheté le hoodie et je le porte pour amener mon petit. Lucas qui va se rendez-vous de contrôle à l'hôpital et il est né préma et nanana et le hoodie va nous porter chance. Ou c'est tiens, je vais me marier, je voudrais vraiment avoir un message d'amour avec moi ce jour-là et donc j'adore tes boucles d'oreilles, mais vraiment le fait que ce soit enfin diffuser le message à l'amour, c'est hyper important pour moi. Ou c'est ma meilleure amie vient d'être diagnostiquée d'un cancer, elle va rentrer dans un traitement et c'est hyper dur pour elle et je voudrais lui envoyer un souhait d'aller l'amour pour qu'elle ait le message tous les jours avec elle et qu'elle y croit. Et en fait, c'est le fait que les gens croient autant à ce mantra que ça les porte. Enfin, je ne sais pas comment te dire, mais les gens me livrent des histoires extrêmement personnelles et je trouve ça incroyable. Et ce que je trouve incroyable aussi, c'est que dans la rue, parfois, il y a des gens qui me reconnaissent. Alors après, Dieu merci, je ne suis pas star. Enfin, je ne suis pas une star de cinéma parce que c'est un délire quand même, tu vois, de croiser des gens que tu ne connais pas et qui te reconnaissent. Genre, c'est très, très bizarre ce qu'on est en train de vivre. Ce que je trouve hyper touchant, c'est qu'en général, c'est pas genre « Ah, Amélie, ah, incroyable, on fait un selfie ». Enfin, tu vois, c'est pas du tout ça. En général, les gens que je croise, ils me font un sourire et ils me disent « Allez, l'amour ». Et ça, enfin, je peux me mettre à pleurer, en fait. Parce que le fait que ce soit ça qui diffuse... C'est pas Amélie Chanel est trop bien habillée, c'est une resta, on s'en fout. C'est aller l'amour, quoi. Ouais. Mais ça, c'est incroyable. Et tu vois le potentiel de ça. Enfin, moi, je sais pas, j'ai l'impression que rien qu'en le disant, je le vois. Tu vois, je vois que ça peut être un empire, mais pas un empire business. Enfin, alors si c'est un empire business, ça m'arrange, mais que c'est quelque chose de très fort, quoi. Ça appelle à quelque chose d'universel et de très fort. Et je pense, dont on a beaucoup, 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 beaucoup besoin en ce moment dans notre monde où on vit dans un monde qui se polarise de plus en plus, qui est de plus en plus violent, où on est exposé à beaucoup de violences, de contenus violents, de haters sur les réseaux sociaux, etc. Et j'ai vraiment créé cette marque comme une armure, mais même pour moi, quoi, en me disant, en fait, je vais y croire plus fort que tout. Tu sais, c'est con, mais quand ma fille était entre la vie et la mort, moi, je disais, mais en fait, elle va mourir, c'est affreux. Et c'est ma sage-femme qui me disait, mais Amélie, il faut croire qu'elle va vivre, t'es obligée d'y croire, parce que si elle meurt, ça sera pas plus facile parce que t'y as pas cru. Donc, en fait, elle va vivre, aller l'amour, quoi. Aller l'amour. Et donc, je suis devenue complètement monomaniaque. Et donc, maintenant, je suis en mode aller l'amour. Enfin, tu vois, c'est presque une mission de vie. Donc, et donc, l'idée, c'est que ça s'exprime à travers une marque, des produits. Enfin, mais ça peut aussi être des expériences, etc. Et l'idée, c'est d'avoir un vrai... de réunir des gens autour de ça, qui
qui, du coup, en consommant des objets ou s'achetant des choses pour eux ou pour leurs proches, diffusent aussi une vision du monde, un message et une consommation responsable et une nouvelle manière aussi d'avoir un rapport à la mode, aux objets, enfin, qui ne soit pas juste matériel, je ne sais pas comment dire, enfin, qui soit, où il y ait vraiment quelque chose derrière.
Mais je te rejoins sur le besoin. Moi, il y a plein de gens aussi qui me le disent, le besoin de douceur, de bienveillance. Ouais. En fait, tu sens que c'est un... Ouais, c'est plus qu'un besoin chez les gens, mais c'est un manque.
Oui.
Parce que, comme tu le disais, tu es dans une société où... Et sur les réseaux, tu le ressens beaucoup. Enfin, moi, je sais que quand je poste des trucs, les gens me disent vraiment, ça me fait du bien.
Oui,
enfin,
ça fait du bien,
voilà,
bien
c'est
sûr.
C'est hyper simple.
Un peu de...
Mais je pense que c'est la même chose avec ton message, tu vois. Est-ce que tu as des inspirations? Alors, ça peut être des... des trucs business, mais pas que, tu vois. Ça peut être aussi des trucs vraiment de l'ordre psychologique ou de boost ou d'énergie qui t'aident au quotidien. Tu vois, ça peut être des bouquins, des personnes, des films.
Je suis pas mal de filles, de femmes sur Instagram que je trouve hyper inspirantes hein, et je pense que ça m'aide au quotidien. Par exemple, des Allison, de Tajine Banane, des... Tu vois, même Blistory, enfin Clémentine de Blistory, je trouve ça très inspirant ce qu'elle a réussi à construire avec son podcast. Elissa aussi, qui est la marque Nous Paris, Élise Chalmin, Mathilde Cabanas. Hein. J'adore ce qu'elle fait. C'est marrant parce qu'on a des univers assez proches, enfin dans le message en tout cas, avec son bisou, elle et tout ça. Marie Courroie aussi, qui a créé Mode Trotteur. Là, qui va redonner une nouvelle vie à sa marque dans pas longtemps. Enfin, les filles d'Emstone. En fait, toutes ces nanas qui sont assez présentes sur Instagram et qui sont à la fois entrepreneuses et qui véhiculent aussi des messages, je pense. Enfin, qui ont un vrai univers, tu vois. Ce n'est pas des nanas qui sont derrière une marque et tu ne les vois jamais ou juste qui posent avec juste une image. C'est des nanas qui transmettent des valeurs, qui racontent une histoire, un récit, etc. Je les trouve hyper inspirantes. Au quotidien.
Ouais, ça te fait partie. C'est plus un booster pour toi que juste te dire ah. Moi, je trouve que ça a un double tranchant parfois. Tu vois les gens.
Ah, tu veux dire moi je fais pas assez. Hein.
Ouais.
Ah oui.
Ça te fait culpabiliser.
Ah ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Non. En fait, moi, je suis vraiment quelqu'un. Mais après, c'est pas que j'ai confiance en moi, tu vois. Mais voir quelqu'un que je vais trouver plus, ça va me donner envie d'y aller plutôt que de me dire ah non, je suis trop nulle, j'y arriverai pas. Tu vois. Et en plus, je trouve qu'elles le font avec un certain ton qui fait que ça rend possible la projection, je trouve. Mm-hmm. Tu vois.
Mm-hmm. Très bien. Ouais. Et donc, ouais. Oui, j'ai une dernière question pour toi qui est question rituelle.
Oui.
Quel est ton conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer?
Très, très, très bonne question. Parce qu'il peut y avoir un désir et une envie. La question, c'est comment on fait pour y aller concrètement, parce que c'est un peu abyssal. Donc, de toute façon, c'est abyssal. Pour moi, le truc, c'est une gestion de risque. Enfin, après, là, je remets un peu mon cerveau Excel, école de commerce, tout ça. Mais en fait, à un moment, il faut mesurer le risque. Donc, c'est OK, je suis dans tel job, j'ai une carrière de tant d'années. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas? Versus qu'est-ce que j'ai envie de monter? Déjà, c'est quoi la viabilité du projet? Donc, c'est juste qu'il faut aussi à un moment le confronter à la réalité. Hein. Faire des business plans, aller voir des gens qui sont dans le business, comprendre est-ce qu'il y a un créneau ou pas, quel est notre avantage comparatif, faire son étude de marché, enfin tout ça. Être concret, quoi. Ramener du concret, des chiffres, c'est important. Je pense aussi qu'il faut savoir bien s'entourer. Enfin, c'est très important de trouver un comptable, un avocat, enfin, des choses comme ça qui permettent aussi quand même de baquer, de se sentir sûr. Et ensuite, moi, je trouve ça toujours intéressant de se dire, OK, je me donne tant de temps avec cet objectif-là. Et si ça ne marche pas, il se passe quoi? Envisager le OK, si ça ne marche pas, il se passe quoi en fait? Pour peut-être calmer le côté OK, je ne le ferai pas parce que c'est trop dangereux, quoi. C'est au pire. Est-ce que tu peux retrouver un job dans là où tu étais? Est-ce que tu vois, quelles sont tes options? Ça se trouve, ça va marcher et tu n'auras plus du tout envie de retrouver un job. Ce n'est pas la question. Ça ne veut pas dire que tu vas suivre ce que tu as envisagé. Mais ça permet de rationaliser des sentiments très forts. Et en même temps, là, je te donne tous ces conseils que je ne me suis pas forcément appliqué à moi. Et là, je me rends compte, je vais me prendre des notes moi-même et me les appliquer dès maintenant.
Ben, c'est souvent ça. Hein. Souvent, ouais.
Parce que...
bon, voilà. Non, mais c'est chouette parce qu'on a fait une centaine d'épisodes et jamais personne ne donne le même conseil.
Ah oui.
C'est fou. Ouais. Donc, c'est tant chouette. Mieux. Donc, ça, c'est encore un autre conseil.
Ouais.
Merci beaucoup, Amélie. Pour ceux qui veulent en savoir plus, donc c'est sur ton compte Instagram où il se passe pas mal de choses.
Ouais, mon compte Instagram, c'est Amélie Chaléa, c'est H-A-L-E-A-T, tout attaché. Et le compte de ma marque responsable, c'est Aller l'amour, comme Aller à deux L-E-Z et l'amour, tout attaché aussi.
Trop chouette. Voilà. Et ben, merci beaucoup.
Merci à toi.
À bientôt.
À bientôt.
Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.